Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission de Sortir du Nucléaire, Dromardèche. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Marillier d'Enercop. Il nous expliquera exactement ce qu'est Enercop tout à l'heure. On lui laisse largement la parole. Et avant tout, autre chose, nos billettistes en colère. Et on va commencer par Georges qui nous parle de TEPCO, si j'ai bien compris.
Voilà, toujours que TEPCO, toujours présent, mais qui n'agit pas beaucoup. Donc le 11 janvier 2013, TEPCO a annoncé qu'il se préparait à établir un IAT, c'est-à-dire un International Advisory Team, pour le démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushima, en coopération avec le gouvernement nippon. Manquant d'expérience en la matière, ils vont créer un organisme consultatif rassemblant des experts américains, anglais, français, russes et ukrainiens, afin de recueillir des avis techniques, choisir les technologies les plus appropriées et obtenir de l'aide sur le site. Ce nouvel organisme devrait être opérationnel dès avril 2013. Les objectifs essentiels sont de gérer la fusion des trois cœurs sur le même site et des piscines fragilisées par le séisme du 11 mars 2012. Pour cela, TEPCO a prévu de retirer les 1533 assemblages de combustible de la piscine de l'unité 4. L'opération devrait être terminée fin 2014. Notez que cet empressement, entre guillemets, à agir a été obtenu grâce à la pression internationale. Mais Koide, l'expert international, annonce que ce transfert sera beaucoup plus long que prévu. Et selon lui, le délai annoncé par TEPCO, à savoir 2 ans, masque son incapacité à agir efficacement. Enfin, le transfert de ces barres étant extrêmement dangereux, cela permet à TEPCO, n'ayant plus droit à l'erreur, de partager les risques avec des experts internationaux. Enfin, pour ne pas être leurré, abusé, même si après 2 ans de perdu depuis la date de la catastrophe, l'enlèvement de ces barres est enfin à l'ordre du jour, il est nécessaire de continuer à faire pression pour que TEPCO perde le contrôle du site nucléaire de la centrale de Fukushima au profit d'une organisation internationale ayant pouvoir décisionnel, car pour l'instant il ne s'agit que de coopération consultative. Dans ce sens, la pétition adressée à l'ONU, à savoir Ban Ki-moon, intitulé « Appel urgent pour éviter une nouvelle catastrophe nucléaire mondiale » est toujours en ligne. À ce jour, 17 500 signatures sur 20 000 demandées sur le site avaz.org. Voilà, à diffuser avec modération.
Ah, merci Georges, c'est moi qui vais faire le second billet aujourd'hui. La Drôme est une nouvelle fois dans l'actualité nucléaire et nous venons dans notre département de prendre et la SNCF, EDF et le gouvernement en flagrant délit de dissimulation. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lundi 21 janvier, un convoi de 7 wagons transportant chacun 5 containers d'uranium appauvri et à destination de la Hollande a déraillé à l'entrée des voies de service de la gare de Saint-Rambert-d'Albon dans le nord de la Drôme. Un wagon est sorti des rails, ce qui a nécessité l'intervention des véhicules et des équipes de secours de la SNCF. La préfecture, la SNCF, Areva, EDF ont très vite communiqué sur cette sortie de voie en précisant que les pompiers n'avaient mesuré aucune activité radioactive et que cet incident, ils ne parlent pas d'accident, ne présentait strictement aucun danger. Circulez donc, il n'y a rien à voir. Pas de chance, un militant de l'association Vivre était rapidement sur les lieux. Il faut dire que les antinucléaires de la vallée du Rhône sont très vigilants sur les transports de matières radioactives. Trains et camions nucléaires circulent en effet presque quotidiennement dans le département de la Drôme, dans celui de l'Isère également, et les accidents et incidents y sont de plus en plus fréquents. Fin novembre 2012, déjà, un château nucléaire vide déraillait à l'entrée de la centrale de Cruas et des camions de déchets nucléaires traversent des villages entiers de notre département. Le constat de ce militant de Vivre et les photos qu'il a pu prendre sur place donne une toute autre mesure à l'incident évoqué par les autorités. À son arrivée, ce militant a remarqué un château nucléaire chargé de combustible usé en provenance du Tricastin et donc très fortement radioactif. Je rappelle qu'un ces châteaux, une demi-heure à son contact, provoque la dose annuelle permise pour quelqu'un du quotidien comme nous. Ce château était stationné dans les quais voyageurs de la gare de Saint-Rambert. Il y restera plus de 3/4 d'heure, tandis qu'un autre wagon, également en provenance d'une autre centrale de la région, celle de Saint-Alban, était déjà sur place dans les voies de service. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste des circulations ferroviaires pour comprendre qu'un château nucléaire de près de 110 tonnes est passé peu de temps avant sur la portion de voie qui s'est effondrée et qu'un deuxième s'apprêtait à passer par le même itinéraire. Un château comme cela, on appelle ça aussi des castors, circule chaque jour en France à destination de La Hague et au départ des 58 réacteurs nucléaires français. Comme les deux de Saint-Rambert, ces wagons sont amenés à circuler sur les voies de service de la SNCF. Voies mal entretenues et responsables de nombreux déraillements malgré une vitesse très faible puisqu'ils n'ont pas le droit de circuler à plus de 20 km/h. Il est inadmissible et criminel que l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, se voit interdire par le gouvernement un contrôle de ces itinéraires réguliers et fréquents de convois nucléaires. Voies de service, passages à niveau, tunnels, autant de portions de voies ferrées périlleuses pour des wagons très fortement nucléarisés ou même des transports d'uranium ou de produits chimiques. Pour sortir du nucléaire 2607, il devient donc urgent, comme cela avait déjà été décidé en 1998, pendant un an, d'interdire ces convois et de mettre fin au trafic des déchets nucléaires. Et puis je vais embrayer sur une information qui nous concerne aussi, pas spécialement dans la Drôme, mais plus généralement, puis ça revient sur une émission qu'on avait faite sur Areva en Afrique. L'Observatoire du nucléaire a accusé en décembre 2012 Areva de manœuvres de corruption au Niger afin de perpétuer sa mainmise sur les réserves d'uranium, je les cite. En ce sens, l'association avait mis en ligne un document sur son site, un compte-rendu officiel d'une réunion tenue en novembre à Paris entre des dirigeants d'Areva et le directeur du cabinet du président du Niger. Areva y juge probable que sa nouvelle mine géante d'uranium d'Imouraren au Niger ne démarre sa production que mi-2016, voire 6 mois encore plus tard. Pour calmer les impatiences nigériennes, le groupe Areva s'engage donc à déployer tous les efforts pour lancer l'exploitation de la mine d'uranium vers la mi-2015 et à verser au Niger 35 millions d'euros sur 3 ans. Selon Stéphane Lhomme, porte-parole de l'Observatoire, ce don était préaffecté à l'achat d'un nouvel avion pour le président du Niger. Si Areva gagne son procès, qui a été reporté du 1er février au 20 décembre prochain, contre l'Observatoire du nucléaire, cette association pourrait avoir 30 000 euros à payer, ce qui signifierait la fin de cet organisme indépendant de surveillance de l'industrie nucléaire. Nous tenons, nous ici, à Atomic Mac et à sortir du nucléaire 2607, à affirmer notre total soutien à Stéphane Lhomme et à son association, l'Observatoire du nucléaire.
Je suis une éolienne en haut de la colline. De là je vois la mer et même je la domine. Le vent est mon copain, il souffle dans mes ailes. Une guerre éternelle où une vase devienne. Je suis une éolienne, pas un moulin du temps passé. Je ne moue pas de blé, moi je fais de l'électricité. Quand le vent est furieux, que mes ailes s'emballent, je rêve que je décolle comme un aéroplane. Le ciel est mon domaine et mon copain le vent me dit:
reviens sur terre, on a besoin de toi.
Je suis bien.
Bonjour à tous, Alain vole le micro. Heureux de vous retrouver pour cette émission de février. Comme vous le savez, à sortir du nucléaire, nous sommes totalement opposés à cette énergie que nous considérons comme très dangereuse. Et Dominique l'a rappelé tout à l'heure, pas seulement les centrales, mais aussi les transports, que ce soit les transports de combustible ou de déchets. Donc très souvent, quand nous discutons avec des gens sur les marchés ou dans les réunions publiques, et nous parlons de fermeture des centrales nucléaires, et dans la région, nous pensons tous, bien sûr, à la centrale du Tricastin, les gens nous disent parfois « Oui, mais attendez, vous êtes bien gentils, mais vous fermez les centrales, et après, comment on fait pour avoir du courant électrique ?» Eh bien, il y a des alternatives avec les énergies renouvelables. Et pour aborder ce sujet, nous allons vous présenter aujourd'hui une alternative, un fournisseur d'énergie verte qui s'appelle Enercop. Et pour découvrir cette énergie verte, ce fournisseur Enercop, nous allons en duo avec Céline Olgado interviewer donc Frédéric Marié, directeur général d'Enercop pour la région Rhône-Alpes. Bonjour Frédéric.
Bonjour, merci de votre invitation.
Alors, pour démarrer en quelques mots, Enercop, qu'est-ce que ça veut dire Enercop en quelques chiffres clés et quelques dates?
Enercop a été créé en 2005 par différentes organisations de protection de l'environnement, de lutte contre notamment le nucléaire, aussi de promotion des alternatives et des énergies renouvelables en particulier, et enfin de structure de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire le monde notamment des coopératives. Et tous ces gens-là ont souhaité effectivement créer une alternative dans le domaine de la fourniture d'électricité aux propositions du passé, notamment EDF avec son nucléaire, mais aussi des propositions qui se mettaient en place à travers l'ouverture du marché, des grosses structures, gros oligopoles maintenant, qui allaient proposer une offre tout à fait comparable à EDF, c'est-à-dire en termes d'approvisionnement principalement nucléaire pour ce qui concerne la France.
Pardon, est-ce que vous avez profité en 2006 de l'ouverture du marché tel que l'Europe la souhaitait, en sachant qu'il fallait que d'autres opérateurs qu'EDF puissent intervenir?
Voilà, en quelques chiffres aussi historiques, effectivement, création d'Enercop en 2005. En 2007, l'ouverture totale du marché de l'électricité, notamment aux particuliers. Jusqu'avant 2007, les professionnels pouvaient choisir leur fournisseur, mais c'est arrivé que seulement en juillet 2007, où... cette ouverture du marché s'est appliquée aussi aux consommateurs comme vous et moi, le 1er juillet 2007. Donc on va peut-être revenir un petit peu sur notre fonctionnement, d'autres petits chiffres sur Enercop. Aujourd'hui, on est une alternative, effectivement. On n'est pas encore très très gros, mais on espère le devenir. On a aujourd'hui 15 000 consommateurs sur toute la France. La coopérative s'approvisionne auprès d'une centaine de producteurs. Il faut savoir aussi qu'on a un statut coopératif et donc plus de la moitié de nos consommateurs sont aussi sociétaires, donc détiennent des parts de la coopérative. Donc il y a 8000 sociétaires en France. Et puis on commence aussi à se régionaliser et donc à créer des structures régionales, dont Enercop Rhône-Alpes que je dirige. Et il y a aujourd'hui donc 6 régions qui sont structurées en Enercop régionale. Voilà, puis un dernier petit chiffre peut-être pour la région Rhône-Alpes. Il y a en Rhône-Alpes 2500 consommateurs et une quinzaine de producteurs sur la région.
Voilà. Très bien. Céline voulait intervenir.
Oui, absolument. Je voulais, sur le fonctionnement d'Enercop, je pense qu'il y a des petites questions que se posent un peu les gens et qu'il est important d'aborder aujourd'hui. Je pense notamment sur la structure coopérative, savoir comment ça fonctionne, le système de sociétariat, la question des bénéfices, ce genre de choses. Et ensuite, le deuxième point qui est techniquement, comment ça fonctionne. Enercop, fournisseur d'énergie, comment ça se passe concrètement en termes d'approvisionnement des abonnés, etc.
Oui, alors c'est important pour nous, puisque c'est effectivement nos deux spécificités, c'est la fourniture d'électricité renouvelable, donc le côté Ener de Enercop, et puis le fonctionnement coopératif, le côté COP. Alors sur le fonctionnement coopératif, effectivement, on a choisi le statut de société coopérative d'intérêt collectif, qui est un statut assez récent, puisqu'il a une dizaine d'années, et qui permet au sein de notre structure de regrouper différents acteurs, nos consommateurs, les salariés de la coopérative, nos producteurs, d'éventuellement des partenaires. Et puis aussi, c'est un des seuls statuts qui permet à des collectivités de participer à la coopérative en prenant des parts de capital, mais aussi en participant à la gouvernance. Donc c'est un statut qui nous paraissait totalement adapté à ce qu'on voulait mettre en place, c'est-à-dire un service, mais sur des territoires, puisque les énergies renouvelables, pour nous, elles ne font sens que à l'échelle des territoires, donc à l'implication aussi des collectivités, et que tous ces gens-là puissent, à travers ce statut et cette gouvernance, réfléchir à cette notion de service d'énergie et discuter ensemble des grandes orientations de la coopérative. Donc ça se traduit par une assemblée générale qui convoque tous les sociétaires une fois par an au minimum, et où on valide collectivement les grandes orientations, notamment les questions de prix par exemple, il y a un enjeu effectivement important sur la question de l'énergie, les axes de développement, par exemple la régionalisation, les types d'énergie qu'on accepte ou pas. Donc c'est une structure qui nous permet une gouvernance démocratique et la participation directe des consommateurs. Ça, c'est un premier point. Et puis, bien sûr, ces différents acteurs sont représentés au niveau du conseil d'administration, qui est l'organe un peu dirigeant au quotidien de la structure. Le deuxième point, effectivement, c'est que c'est un statut aussi qui encadre beaucoup la question de l'argent, de la rémunération du capital et de l'affectation des bénéfices, puisque, contrairement à une société classique, on n'est pas coté en bourse. Quand les gens prennent une part de capital, cette part, elle ne va pas varier suivant des logiques financières. Il n'y a pas de spéculation. Cet argent, il est vraiment dédié au projet et à l'investissement dans les énergies renouvelables. Et quand les gens souhaitent récupérer leur argent, ils les récupèrent au même niveau qu'ils l'ont donné. Donc il n'y a pas, je dirais, de valorisation ou de spéculation autour du capital qui est apporté. Et dernier point, c'est que nos statuts nous obligent à réinvestir au moins 57% de nos bénéfices dans l'objet social d'Enercoop, c'est-à-dire principalement pour nous le développement des énergies renouvelables ou des services de maîtrise de l'énergie.
Ça veut dire que, en réalité, tous les bénéfices que fait Enercoop sont quasiment investis dans la recherche, le développement de la production d'énergie verte, et que c'est pas du tout destiné à rémunérer les gens qui ont investi.
Alors on peut rémunérer aussi le capital, effectivement, mais c'est plafonné à un taux de 3 à 4%. Hein, c'est un taux légal qui est fixé année par année, un taux réglementaire. Et donc on est très loin des rémunérations exorbitantes financières autour de 12% que réclament tous les actionnaires classiques dans les grands groupes. On n'a vraiment effectivement pas une logique financière.
D'accord. Et en tant que consommateur, qu'est-ce qui nous garantit que 100% de l'énergie que vous produisez, que vous vendez, est verte ?
Alors voilà, ça c'est la deuxième partie.
Techniquement, comment ça fonctionne ?
Là, il faut s'arrêter peut-être 30 secondes sur le fonctionnement aujourd'hui du système électrique avec cette ouverture du marché, puisque l'ouverture du marché a fait que les différentes activités de production, de distribution et de fourniture aux gens ont été séparées. Et il faut bien comprendre que le réseau de distribution et de transport est resté un service public.
C'est ce qu'on appelle ERDF.
Voilà.
Ça veut dire quoi,
ERDF ? Alors, ERDF, c'est Électricité Réseau de France.
D'accord.
Alors, c'est important de le signaler. Et alors, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que les réseaux... Alors, il y a deux types de réseaux. Il y a les très hautes tensions, c'est RTE, Réseau de Transport d'Électricité, qui appartient et qui est géré par RTE. Les réseaux de distribution, c'est les réseaux de basse et moyenne tension. Ils appartiennent aux collectivités, très important. Souvent, elles ne le savent pas, mais c'est aussi une garantie, et on l'espère à l'avenir, qu'elles prendront un poids plus important, mais une garantie de la notion de service public. Par contre, effectivement, aujourd'hui, c'est géré, donc c'est mis en gérance obligatoire aujourd'hui à ERDF. Mais en tout cas, tout le monde a c'est un bien commun, ce réseau, et il est géré de la même manière que vous soyez chez Enercoop ou chez EDF.
Ça veut dire que ERDF transporte le courant électrique fourni par les centrales nucléaires d'EDF et transporte aussi l'énergie verte fournie par vos producteurs. C'est bien ça ?
Exactement. Okay. Donc, ayant précisé ça, effectivement, sur le réseau, tout est injecté. Et je dirais, l'électricité...
L'électricité,
elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'odeur. Le problème de l'électricité, c'est au moment de sa... Principalement, en tout cas, c'est au moment de sa production. Donc, ce qui est important de savoir, c'est d'où elle vient. C'est le problème de traçabilité. Et la deuxième chose qui est importante pour un consommateur qui souhaite agir à travers sa facture notamment, c'est de savoir à quoi sert l'argent qu'il paye. Puisqu'effectivement, chez vous, quand vous allez allumer l'électricité, que vous allez chez Enercoop ou EDF, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ce qui est important, c'est que quand vous payez votre facture, vous sachiez que la part qui sert à rémunérer les producteurs rémunère des producteurs en énergie renouvelable. Et c'est le cas chez Enercoop avec nos 100 producteurs. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point qui est important aussi, c'est que les bénéfices que va faire Enercoop, c'est important de savoir que ces bénéfices-là, ils vont servir aussi à financer et à développer les énergies renouvelables. Donc c'est ces deux points clés qui font que choisir un fournisseur d'électricité verte fait sens.
D'accord.
Solar Song, voici la chanson du soleil, celle qui décoiffe, celle qui réveille, celle de la vie après le pétrole, car il y a une vie après le pétrole. Pour moi, grâce au soleil, la vie ne sera plus pareille, la vie elle sera bien plus belle. Solar Song. Pour le solaire, les Autrichiens mettent des capteurs sur le toit de chacun. Pour l'éolien, comme des moulins, chez les Danois, ça tourne bien.
Pour moi, c'est immédiat. Je mets des capteurs tout le long du toit. Je plante des hélices à tour de bras.
Solar Song. Cyclone, sécheresse et canicule, la mer qui monte, les glaces qui reculent, l'effet de serre c'est notre Titanic et nos dirigeants qui paniquent.
Pour moi, je pars au combat, je me colle des capteurs plein les bras, c'est au-dessus leur thermostat.
Solar Song. La fraise congelée de l'Antarctique, c'est pas fameux et c'est pas chic. Dans les boutiques, plein de sacs plastiques, ça pollue trop, pétrochimique.
Pour moi, c'est décidé, je reprends mon panier en osier pour acheter des pommes au marché.
Solar Song. Polyester, nylon, tergal, tissu chimique, tissu banal. Et quand faut chauffer en hiver, le fioul ça pue, ça coûte trop cher.
Pour moi, c'est décidé, je mets du bois dans la cheminée, je m'habille coton, laine tricotée.
Solar Song. Dans le centre-ville, il y a trop d'autos, ça n'avance pas et ça pue trop. Faire ses courses ou pour le boulot, chacun conduit sa petite auto.
Pour moi, faut s'activer, je range mon 4x4 climatisé, vélo, métro pour me déplacer.
Solar Song. La civilisation du pétrole, goudron, camion, super gazole. Pour un requin, trois chinois rigolent et jettent leurs biclous, veulent des bagnoles.
Pour moi, c'est décidé, je prends le TGV, le bus ou le voilier, j'apprends le chinois pour y expliquer.
Solar Song. En 2015, le pétrole se barre, en 2030, c'est le gaz qui part, c'est dans la vie après le pétrole, c'est pour vous dire si je m'affole.
Pour moi, systématique, pour ce qui me reste d'électrique, je prends l'option photovoltaïque.
Pour nous, c'est décidé, on va tout relocaliser avant de tout naturaliser. Pour nos enfants, pour notre retraite, demain matin, nous on arrête de poubelliser la planète.
Solar Song. Voici la chanson du soleil, celle qui décoiffe, celle qui réveille, celle de la vie après le pétrole, car il y a une vie après le pétrole.
Pour nous, grâce au soleil, la vie ne sera plus pareille, la vie elle sera bien plus belle.
Oui, donc vous êtes toujours sur Radio Méga, c'est Atomic Mac, l'émission de sortir du nucléaire d'Ordre Mardèche. Donc après les éoliennes et le solaire, on revient avec Frédéric Marillier, directeur d'Enercoop Rhône-Alpes, donc nous avons en interview aujourd'hui. Donc la question qu'on se posait, donc comme vous nous l'avez expliqué, donc de nombreuses personnes sont abonnées à Enercoop et donc vous assurez une production d'énergie renouvelable, 100% renouvelable. La question qu'on se pose, c'est qui sont vos producteurs d'énergie, qui sont ces personnes qui injectent sur le réseau l'énergie qui plus tard est consommée par les personnes. Donc voilà, et notamment en Dromardèche, donc ce qui nous intéresse puisque
d'accord.
Voilà.
Oui, comme je vous le disais, donc on a une centaine de producteurs qui sont en contrat direct avec Enercoop. Alors ces producteurs, on va dire, c'est un petit peu tout type de profil. Hein. Il y a quelques particuliers, il y a des producteurs, des paysans, il y a des collectivités, On n'a pas aujourd'hui de très gros sites, tout simplement parce qu'on est trop petit, on aurait trop d'électricité par rapport au nombre de consommateurs, mais on a quand même une centaine donc, de petits producteurs un petit peu partout en France. Et sur Drôme-Ardèche, on a notamment la mairie de Luc-en-Diois, qui a une centrale hydraulique qui nous fournit l'électricité. On a aussi des producteurs hydrauliques sur la vallée de l'Erieux, donc plutôt côté Ardèche. Et puis on a aussi des projets, je vous en parlais, mais c'est aussi un très important dans la logique d'Enercop, c'est que ce fournisseur il fasse sens et participe bien sûr à travers ses consommateurs et les factures au développement des énergies renouvelables. Et donc on a aujourd'hui des projets principalement en Rhône-Alpes, justement en Drôme-Ardèche, puisqu'on est en train de rénover un ancien moulin là aussi sur Luc-en-Diois qui devrait être réhabilité et produire cette année. On a un projet de petite centrale photovoltaïque sur l'écocide de Heure dans la Biovallée. Et puis aussi, on a un projet de moyennes éoliennes, plutôt côté Ardèche, à Saint-Julien-la-Brousse.
Donc, c'est voilà. Près du Chélard, je crois, ça.
Oui, c'est sur la petite commune du Chélard, exactement.
Et sur ce dernier point, donc, je crois que ce sont des initiatives citoyennes à l'origine. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, c'est-à-dire que de la même manière que nous, si vous voulez, l'approche d'Enercop, c'est bien sûr développer les énergies renouvelables, mais aussi, et c'est important si on veut aussi aller vers cette fameuse transition dont on parle aujourd'hui, c'est que les gens se réapproprient cette question-là. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, il est important que ce soit les collectivités ou les acteurs des territoires puissent participer et développer des énergies renouvelables, que ce ne soit pas seulement des grands groupes financiers qui développent les énergies renouvelables, comme c'est un peu trop le cas aujourd'hui. Et donc nous, quand on porte des projets d'énergie renouvelable sur des territoires, on propose aussi, on anime et on propose aux gens de participer soit au développement à travers des groupes de travail technique, mais aussi à l'investissement dans les énergies et dans les projets, pour qu'il y ait aussi un maximum de retombées sur les territoires et aussi une gouvernance locale des projets de production. Ça nous paraît extrêmement important.
Oui, vous nous parlez donc là de proximité, d'autonomie, de citoyens engagés et participants. Mais justement, dans ce débat de transition énergétique, vous vous situez, vous voulez intervenir, vous voulez apporter votre part?
Oui, bah, moi, il faut toujours rappeler pourquoi on existe. Hein. Si on existe, c'est qu'il y a quand même deux problèmes, on va dire. Un gros problème lié à l'environnement. Donc, bien sûr, le risque majeur en France du nucléaire quand on parle d'électricité. Il faut aussi rappeler la question climatique, qui n'est plus trop dans l'actualité, mais qui reste un enjeu extrêmement important. Et puis, il y a aussi ce risque, je dirais, surtout en pleine crise sociale, puisqu'on sait qu'on va vers une raréfaction des ressources, une augmentation des prix de l'énergie. Donc, il y a aussi un énorme enjeu à mieux maîtriser la production, mais aussi la consommation d'énergie. Donc, c'est aussi pour ça qu'on en parlera peut-être vite fait, qu'on travaille aussi sur la question de la réduction des consommations. Mais pour nous, c'est effectivement tout ça, c'est des enjeux extrêmement importants. Et il faut que les gens et les collectivités se les réapproprient. Et nous, c'est ce qu'on essaye de proposer à travers notre fonctionnement, notamment coopérative. On essaye que les gens ne soient plus que des simples consommateurs, mais vraiment des consommateurs. À l'échelle aujourd'hui de la région, puis on espère demain peut-être à une échelle de plus en plus locale.
Justement, à propos d'échelle, donc on a bien compris qu'Enercop a quelques années derrière elle, vous évoluez régulièrement, on va dire, mais quels sont vos objectifs à moyen et long terme ?
Ben nous, si on devait émettre en tout cas une vision, en tout cas, nous on aimerait qu'il y ait effectivement, on va dire, des coopératives de ce type-là un petit peu dans toutes les régions, voire plus localement, et qu'effectivement on revienne vers un sens plus collectif de cette énergie et une gestion aussi plus locale. Ça c'est extrêmement important. Normalement, si on va vers un système on va être plus sobre et on va développer les énergies renouvelables, et c'est forcément des énergies des territoires, donc il faut qu'il y ait des gouvernances locales qui se créent. On ne peut pas tout décider depuis Paris, ça ne fait pas sens sur ce mode de fonctionnement. Il y a bien sûr des gros enjeux de mutualisation et de solidarité à créer entre les territoires, parce qu'ils ne sont pas tous égaux, mais néanmoins il faut amener de la gouvernance locale sur ces questions d'énergie. Donc je dirais qu'en tout cas, nous, le projet à notre échelle d'Enercop, c'est de multiplier les régions, d'être présent dans toutes les régions. Aujourd'hui, on n'est présent que dans 6 régions pour créer plus de proximité entre producteurs, consommateurs, collectivités. Et puis, je dirais être le plus nombreux possible, parce que ça voudra dire qu'il y aura beaucoup plus d'énergie renouvelable en France et sur le réseau d'électricité.
Oui, alors autonomie, solidarité, gouvernance locale, c'est bien. Mais comment vous articulez ça avec la notion quand même auquel les Français sont très attachés, la notion de service public, que chacun puisse avoir l'énergie au même prix partout, dans tous les points du territoire? Parce que certains, même en vous taquinant, on va le dire, ont parlé, oui, mais attention, ces sociétés-là qui démarrent comme ça, est-ce que c'est pas une nouvelle sorte de capitalisme vert? Alors, ça vient de certains partis un peu raides dans leurs bottes parfois, mais bon, hein, c'est quand même à prendre en compte.
Bah, c'est pour nous une des maladies de la France, c'est qu'on est dans une dichotomie soit tout privé avec des gros groupes, et souvent d'ailleurs en France on a bien mélangé les deux, puisque on a des groupes à capitaux publics importants qui sont des gros prédateurs à l'étranger. Mais effectivement, pour nous, service public, ça ne veut pas dire forcément le monopole d'État. Il y a différentes échelles à laquelle on peut organiser le service public. Donc il y a cette notion de géographie. Et puis, je pense que c'est important que les gens ne soient plus directement associés aux décisions aujourd'hui. Il faut aller vers plus de démocratie participative et autres. Et là-dessus, le mode coopératif est intéressant. Donc il n'y a pas que deux schémas, c'est-à-dire le groupe privé, la SA en action, et le service public d'État. Il y a aussi des services publics dans les collectivités, et il y a aussi le mode, les coopératives, c'est une troisième voie, l'économie sociale et solidaire, qui est un intermédiaire, et qui peut très bien, sur des thématiques comme l'énergie, avoir un rôle très, très intéressant.
D'accord. Dominique voulait intervenir sur ce sujet.
Oui, je fais partie de ces gens qui sont un peu droit dans leur botte sur le service public, justement. Mais la réponse me satisfait complètement. Je pense qu'en fait, on avait deux après-guerre, on a eu le service public de production et de distribution qui était extrêmement bureaucratisé, on l'a vu, et qui a créé l'industrie nucléaire. Et puis maintenant, on a une autre sorte de monopole qui est l'industrie privée, qui est aussi d'ailleurs centralisée et aussi pro-nucléaire. Donc la troisième voie, on est parfaitement d'accord. Peut-être ce qu'on pourrait reprocher à NERCO, j'espère qu'après cette discussion, là, vous y arriverez, c'est que vous ne communiquez pas plus justement sur ce nouveau type de service public. Parce que la critique peut facilement être faite, effectivement, de dire que ce sont des nouvelles entreprises privées, certes écologiques, certes, etc. Mais finalement.
C'est compliqué. Nous, on a un statut de droit privé, hein, juridiquement, mais effectivement, les collectivités peuvent participer et donc on a un fonctionnement. Voilà, nous, on ne revendique pas être un service public, ce serait un peu présomptueux, mais on a un service d'intérêt collectif. Et on essaye de représenter l'ensemble des acteurs intéressés par cette question de l'énergie, encore une fois, les producteurs, les consommateurs, les collectivités et éventuellement
d'autres acteurs. Vous souhaitez vraiment associer les collectivités ?
Oui, c'est important qu'elles, de plus en plus, c'est un des sujets sur la transition, c'est qu'il y a aussi une décentralisation de ces enjeux et de ces compétences, puisque encore une fois, quand on parle d'énergie renouvelable, on ne va pas décider à Paris où est-ce qu'on met des toits solaires, ça ne fait pas de sens. Par contre, on peut le décider à l'échelle locale, dans des règles d'urbanisme.
Bien entendu.
C'est ça qui est extrêmement important.
Bien entendu.
Oui, un autre point sur lequel je voulais un peu poser la question un peu casse-pied, c'est de dire, vous, votre intérêt en tant que fournisseur d'électricité, c'est d'en vendre de l'électricité. Comment est-ce qu'on concilie ça avec l'idée qu'il faille réduire en fait les consommations d'énergie, qui doit être un objectif très important si on veut pouvoir se sortir de tout ça dans les années à venir?
Et j'ajouterais combien ça coûte en fait. Est-ce que c'est plus cher? Parce qu'on dit l'énergie verte, c'est toujours plus cher. Qu'en est-il?
Alors, en essayant d'être synthétique, puisque je vois que l'heure passe, sur l'électricité en France, on a une situation assez particulière où l'électricité est quand même beaucoup moins chère que partout en Europe et pas forcément à sa juste valeur. Bon, c'est la question des prix, du nucléaire, etc. Donc nous, effectivement, on est aujourd'hui plus cher que les tarifs régulés d'EDF, d'une vingtaine de pourcents. Alors ça veut dire pour des gens très concrètement entre 8 et 15 euros par mois supplémentaire suivant son niveau de consommation.
Donc, c'est quelque chose.
Voilà, pour une famille de 4 personnes dans 100 mètres carrés. L'ordre de grandeur, c'est une dizaine d'euros par mois. Donc c'est pas négligeable, mais c'est quand même largement abordable. Mais la question du coût de la facture, c'est pas que le prix, c'est aussi le niveau de consommation. Donc on essaye aussi, nous, de plus en plus de jouer aussi sur ce deuxième levier qui est la réduction des consommations. Et d'ailleurs, en Rhône-Alpes, on va mettre en œuvre dès cette année des formations pour aider nos consommateurs à mieux diagnostiquer leur niveau de consommation chez eux et à les aider à réduire la consommation suivant leur cas de figure. Ça peut être très différent d'une famille à l'autre. Donc il faut rentrer un peu dans le détail, il faut sortir des conseils globaux qu'on peut avoir par ailleurs et qui continuent d'être... qu'il faut continuer de diffuser, mais quand on veut arriver à un niveau de réduction assez important, il faut rentrer dans le détail, et c'est ce qu'on va essayer de proposer dès cette année avec des formations à la réduction des consommations.
Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que votre électricité 100% verte est un peu plus chère que l'électricité nucléaire, mais qu'en revanche, ce surcoût peut être compensé par une baisse de consommation adaptée en fonction des formations, des informations que vous allez communiquer à vos clients.
Exactement.
Ceci compensant cela.
Voilà, l'idée c'est que ça compense et que les gens soient à facture constante. Un dernier petit mot assez rapide aussi, juste pour dire aussi, c'est que parfois, bon, à part cette question de surcoût qu'on essaye de traiter avec la question de la réduction des consommations. Il faut savoir que changer de fournisseur aujourd'hui, c'est très facile. Hein, il suffit de souscrire à l'offre, soit sur Internet, soit sur papier. Le changement se fait automatique et sans problème particulier. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de changement de compteur. Hein. Comme on le disait, le réseau reste le même, le gestionnaire de réseau reste le même. Et puis, il y a toujours possibilité, si on n'est pas content ou si on a un problème d'ordre économique passager, on ne peut plus assumer le surcoût, par exemple, on peut revenir au tarif régulé d'EDF.
Donc on peut quitter EDF sans risque, passer chez NERCOP sans problème, éventuellement revenir à EDF s'il y avait un vrai problème, ce qui n'arrivera sûrement jamais, mais bon, on sait, ok, c'est possible.
Voilà, tout à fait.
Et si on veut aller sur NERCOP, j'ai lu quelque part dans une de vos brochures que c'est vous qui prenez en charge les modalités de...
Oui, encore une fois, il suffit de souscrire un bulletin, soit sur Internet, donc notre site Internet, www.nercop-rhône-alpes.fr,
d'accord.
Soit en nous appelant et on vous envoie un bulletin papier. Les deux sont possibles et vraiment, ça prend en 10 jours, c'est fait et chez vous, c'est très simple. Voilà. Mmh. Et vous participerez au développement des énergies renouvelables et aussi à relocaliser la gouvernance de l'énergie.
Merci
à votre invitation.
Merci Frédéric, on va te faire revenir parce que du coup, il fait les transitions, c'est impeccable. Comme dans toute émission, on se dit qu'on aimerait passer beaucoup plus de temps, mais je pense qu'on va renvoyer aussi sur le site d'Enercop et il y aura également sur le site de Sortir du Nucléaire toutes les informations si vous voulez, chers amis et amis, auditeurs et auditrices, adhérer à Enercop, ce que nous vous recommandons. Pierrick, tu as un agenda chargé.
Oui, bonjour à tous. Comme tous les mois, on est très actifs, à défaut d'être radioactifs, à Atomic Mac. Et du coup, je vais vous présenter l'agenda de ce mois de février qui est un petit peu chargé. Alors tout d'abord, à ne pas rater, du 25 janvier au 4 février, donc jusqu'à aujourd'hui, il y avait les journées de l'écologie au quotidien qui étaient organisées dans la vallée de la Drôme et Verdi, avec les Utopies en marche, les conférences, les débats. Il y a encore quelques postes à occuper, si ça vous intéresse. Il y a également de prévu le 7 février à 18h30 par la CRIRAD, une conférence en accord avec les universités populaires de Montélimar sur les effets des radiations sur le vivant. Qu'est-ce que la radioactivité? Les déchets sont gérés par l'industrie nucléaire civile et militaire, mais comment? Donc Roland Desbordes, président de la CRIRAD, interviendra pour expliquer tous ces petits sujets qui sont fort intéressants. Ensuite, il faut prévoir le 9 février, samedi, à 15h, un rendez-vous est donné à 14h30 à Grenoble, dans les jardins de la ville, une chaîne humaine qui est organisée pile un mois avant la grande chaîne du 9 mars prochain, grande chaîne qui aura lieu à Paris. Si vous souhaitez des contacts, vous pouvez contacter Sonia Marmottan au 04 76 25 18 22. Il y a des tas de chaînes humaines également qui sont organisées un peu partout en France. Je parle à l'attention de nos auditeurs du web. Donc vous pouvez consulter cela sur l'agenda du réseau Sortir du Nucléaire, donc sortirdunucléaire.fr et rubrique agenda. Vous verrez, il y a forcément une chaîne humaine près de chez vous. Il y a un rassemblement anti-nucléaire qui est prévu à Montélimar sur le parvis du théâtre le 11 février de 16h à 19h. Rassemblement pour échanger sur la question, c'est organisé par Christophe Lefebvre. Voilà, il y a également une chaîne humaine sur l'arrêt du nucléaire le 23 février, on est en plein dedans, hein. le 9 mars arrive à grands pas, donc on voit que les gens se mobilisent pour cette grande chaîne humaine. Donc le 23 février, il y a le FestiChaîne précisément, donc qui vient en soutien et qui vous permettra de profiter des différents artistes. Il y a Batlik qui interviendra, il y a D'abord, il y a les Becs Bien Zen. Les places sont à retirer soit à la FNAC, soit auprès de SDN 2607. 15€ la place, ça permettra de financer notamment les trajets pour se rendre à la grande manif du 9 mars. Et puis enfin, pour le mois d'avril, par anticipation, il y a deux gros événements. Il y a le forum Ardéchois sur la transition écologique et énergétique. Quelle Ardèche pour demain? Ça, c'est la question ouverte à laquelle il répondrait les 13 et 14 avril 2013 à Villeneuve-de-Berre. Donc là, il y a une convergence, on va dire, de différents mouvements qui sont engagés sur la question de l'énergie. Et il y a la Marche pour la vie qui est organisée à l'initiative du CAN 84, donc collectif antinucléaire du Vaucluse, du 15 avril au 26 avril. on vous donnera plus de précisions dans la prochaine émission. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de pouvoir écouter les chansons suivantes, celles de Nos enfants chantent pour la planète, Solar Song également, et puis on finira en beauté avec la chanson des faussaires Effet de serre. Notre prochaine émission aura lieu le 4 mars, donc un petit peu avant la grande chaîne de Paris. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser sur notre répondeur gratuit au 0805 696 758. Et je remercie Céline, Simon à la technique, Georges, Alain, Dominique et Frédéric d'avoir participé à l'élaboration de cette émission.
Saga, à l'heure sacrée de l'apéro, la banquise n'en finit pas de perdre les os. Bien sûr, devant l'intolérable gravité de la situation, les instances internationales ont pris cette grande décision. Convoquons une réunion publique préliminaire afin d'élire une commission préparatoire et paritaire. Mettons en place une procédure de mise en œuvre d'un traité afin d'établir la structure de la prochaine assemblée. Et l'ours blanc grand prédateur commence à se poser des questions. Tu sèmes déjà moins la terreur. Tu es de l'eau jusqu'au rouston. Paille la paille, paille la paille, paille, bla 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 bla. Paille la paille, paille la paille, bla 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 bla. Il faut qu'il faut qu'il faut que ça cesse. Dis le pingouin qui est pas manchot. À force de dire que rien ne presse, on va finir le bec dans l'eau. Car tout ça c'est des sonnettes, ça ne vaut pas un fait de la fond. L'esquimau part en sucette, on commence à voir le bâton. Convoquons une réunion publique préliminaire afin d'élire une commission préparatoire et paritaire. Mettons en place une procédure de mise en œuvre d'un traité afin d'établir la structure de la prochaine assemblée. Et l'ours blanc grand prédateur arrive à cette constatation. Tu fais déjà moins ton frimeur avec de l'eau jusqu'au menton. Paille la paille, paille, paille la paille, paille, gla 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 gla. Accassés par ces incapables, tous les artistes dignes de ce nom, lors d'une synthèse remarquable, ont pris cette grande décision. Composant une petite chanson de trois couplets et un refrain, entamant les répétitions, sortant le disque à mi-juin. Et l'ours blanc grand prédateur aboutit à cette conclusion. Tu joues moins au serial killer avec de l'eau au-dessus du front. Paille la paille, paille la paille, paille la paille.